Chapitre 49. Le matin du meurtre. Le matin du meurtre. Dimanche 16 décembre, 7h30. Des coups contre la porte réveillèrent Macaire. Il émergea péniblement de son sommeil. Les coups étaient insistants. Il finit par se lever et enfila une robe de chambre. Dans le couloir de l'entrée de sa suite, au moment d'ouvrir la porte, il marcha sur un morceau de papier. Quelqu'un avait glissé sous la porte une note à son intention. Macaire crut d'abord à un message de l'hôtel, avant de reconnaître l'écriture, celle d'Anastasia. Il lut, le cœur battant, les quelques lignes griffonnées à la hâte. « Macaire, je pars pour toujours. Je ne reviendrai plus. Ne cherche pas à me retrouver. Pardonne-moi. Je vivrai pour toujours avec le poids de ce que j'ai fait. » Anastasia. Soudain, encore des coups contre la porte. Macaire glissa le message dans la poche de sa robe de chambre avant d'ouvrir. Un policier en uniforme se tenait devant lui. Une agitation de tous les diables régnait dans le couloir. « Qu'est-ce passe-t-il ? » demanda Macaire au policier. Le policier le dévisagea d'un air circonspect. « Vous n'entendez pas le boucan qui règne depuis une heure ?»« J'ai pris des somnifères hier soir, » expliqua Macaire dans un état visiblement comateux. « Il y a eu un meurtre cette nuit, » indiqua le policier.
« Quoi ? Comment ça ?»
Macaire ne comprenait rien de ce qui était en train de se passer. Tout tournait autour de lui. Il avait mal au crâne, comme dans un mauvais rêve.
« Qui est mort ?» demanda Macaire.
« Un client sur cet étage. Vous n'avez rien entendu cette nuit ?»«
Non, rien. Mais je vous l'ai dit, je prends des somnifères. »
Macaire voulut faire un pas dans le couloir pour voir ce qui se passait, mais le policier l'en empêcha.
« L'hôtel est bouclé. » « Les gens sont consignés dans leur chambre pour le moment. Gardez votre porte ouverte, s'il vous plaît. Un inspecteur viendra vous parler tout à l'heure. »
Depuis le pas de sa porte, Macaire vit alors Lev, lui aussi à la porte de sa chambre, qui observait l'agitation.
« Lev, que se passe-t-il »
demanda Macaire.
« C'est Jean-Bénédicte, »
répondit Lev blême. « Il a été retrouvé mort ce matin. »«
Quoi ? Jean-Béné est mort ? Qu'est-ce que tu racontes ? » ?»«
Un employé de l'hôtel l'a trouvé mort, tué par balle. »
Macaire, sous le choc, retourna dans sa chambre et s'assit sur un canapé. C'était la meilleure nouvelle possible. Il n'en revenait pas. Si Jean-Bénédicte était mort, alors il était président. Est-ce que la prophétie de Tarnogol s'était réalisée? Il avait perdu Anastasia, mais il allait devenir président. Enfin! Un policier en civil à l'air juvénile et à la carrure athlétique se présenta à la porte de la suite de Macaire.
« Inspecteur Favraz, police judiciaire, »
indiqua le policier en agitant le badge qu'il portait autour du cou.
« Je peux vous poser quelques questions ?»
Macaire invita le jeune homme à entrer dans la pièce. À sa demande, il lui présenta une pièce d'identité et lui indiqua sa fonction au sein de la banque. Le policier, notant scrupuleusement tout ce qui se disait dans un carnet, expliqua alors que Jean-Bénédicte avait été assassiné par balle pendant la nuit. Macaire était complètement effaré.
« Vous n'avez rien entendu ?»
s'étonna le policier.
« Je dormais, »
expliqua Macaire.
« Deux coups de feu ont été tirés à quelques mètres de vous et vous dormez comme un loir ?»«
Je prends des somnifères. À quelle heure cela s'est-il produit ?»«
Il nous faut encore le déterminer. On m'a parlé d'une intoxication générale hier soir. Avez-vous été touché ?»«
Non, » répondit Macaire.
« Je n'ai pas bu de cocktail. »
Macaire se mordit la langue aussitôt. Le policier le fixa d'un regard méfiant.
« Pourquoi me parlez-vous des cocktails ?» On m'a dit qu'il s'agissait d'une probable intoxication alimentaire.
La conversation s'interrompit ici car, soudain, on entendit de l'agitation dans le couloir. L'inspecteur Favraz s'en alla immédiatement voir ce qui se passait. Macaire, depuis le pas de la porte de sa suite, vit le policier se précipiter dans la chambre d'Horace Hansen avant d'en ressortir pour s'écrier à l'attention de ses collègues
« Il fait une crise cardiaque, appelez les secours !»
Après quelques minutes de confusion, deux ambulanciers arrivèrent à l'étage et furent guidés jusqu'à la suite d'Horace Hansen, où ils restèrent longuement. Celui-ci en ressortit finalement allongé sur une civière, inerte, pâle comme la mort, un masque à oxygène sur le visage. L'inspecteur Favraz assistait les ambulanciers, tenant une perfusion à bout de bras. Ils pénétrèrent dans la cabine de l'ascenseur, qui se referma sur eux. Dans l'ascenseur, le policier, fixant le visage d'Horace Hansen, eut l'impression que ce dernier murmurait quelque chose. Il approcha son oreille de sa bouche et il entendit le vieil homme murmurer en boucle
« Lebovitch, président. Lebovitch, président. »
Le policier, sans comprendre ce que cela pouvait signifier, nota ces mots énigmatiques pour ne pas les oublier. Le jour se levait lentement sur Verbier. Les gyrophares bleus des véhicules d'urgence illuminaient la façade du palace. Autour de l'entrée principale s'agitaient des gendarmes, des inspecteurs, des maîtres chiens et des experts de la police scientifique. Derrière eux, contenus par des rubans en plastique, des dizaines de curieux et de journalistes s'excitaient, impatients de savoir ce qui s'était passé. « Un des grands patrons de la banque Ebesner a été assassiné, disait-on. Un meurtre à Verbier. C'était du jamais vu. » Contemplant le grabuge avec désarroi depuis les grandes baies vitrées, M. Rose et quelques employés se lamentaient. Les réservations allaient chuter. C'était le début de la saison de ski et personne ne voudrait venir dans un hôtel où un meurtre venait d'être commis. Le palace risquait la faillite. 4 mois après les faits, en ce début du mois d'avril, dans son bureau de président de la banque Ebesner, Macaire repensait souvent à ce sombre dimanche de décembre qui avait vu la disparition de 2 générations d'Hansen. Quelques heures après l'assassinat de son fils, Horace Hansen décédait des suites de sa crise cardiaque à l'hôpital de Martigny. La mort brutale de son fils lui avait porté un coup fatal. Quant à Signor Tarnogol, 3e membre du conseil, il s'était volatilisé. Il avait laissé à Jean-Bénédicte une lettre retrouvée dans le coffre-fort de la chambre de ce dernier et dans laquelle il indiquait démissionner avec effet immédiat et donner ses actions, ainsi que son vote, à Macaire et Besner. Ainsi, dans les semaines qui avaient suivi le meurtre de Jean-Bénédicte Hansen, Macaire avait-il non seulement récupéré les actions de Tarnogol, mais également celles de son père. Le conseil étant décimé, le notaire chargé d'exécuter le testament d'Abel Ebesner avait dû constater que les volontés de ce dernier ne pouvaient plus être respectées et donc que ses actions revenaient à son seul héritier. Macaire était ainsi devenu, de fait, président de la banque Ebesner, puisqu'il détenait plus des 3/4 du capital, ce qui faisait de lui l'un des banquiers les plus riches et les plus puissants de Genève. Il était admiré et envié. Mais sa réputation était devenue également un peu sulfureuse. Il devait sa gloire nouvelle à l'assassinat de son cousin. Pour ne rien arranger, l'enquête de police semblait au point mort, et si rien n'incriminait directement Macaire, tous ceux qui le croisaient dans la rue se demandaient forcément ce qui s'était passé cette fameuse nuit du 15 au 16 décembre dans la chambre 622 du palace de Verbier. Macaire et Besner avaient-ils tué son cousin pour prendre le contrôle de la banque familiale? Macaire, au courant des rumeurs, s'efforçait de ne pas y prêter attention. Surtout, tous autour de lui n'étaient que sourires et courbettes. Ceux qu'il croisait en ville se précipitaient vers lui pour le saluer respectueusement et lui cirer les bottes. Et cela pour une raison bien précise. Jean-Bénédicte, étant fils unique et n'ayant pas eu d'enfant, Horace et lui étaient morts sans descendance. Les Hansen avaient été éradiqués. Le règlement de la banque Ebesner prévoyait que dans un tel cas, leurs actions seraient rachetées par la banque pour être cédées ensuite à 2 nouveaux membres du conseil désignés par le président. Pour la première fois en 300 ans d'existence, le conseil de la banque Ebesner ne serait plus composé exclusivement d'Ebesner et de Hansen. Pour tous les jeunes loups de la finance, c'était une occasion unique. Macaire était désormais l'homme le plus en vue de Genève et le plus courtisé. Macaire, le fils mal-aimé d'Abel, était devenu le plus puissant des Ebesner, le plus riche des Ebesner, le plus grand des Ebesner. Qu'éprouvait-il maintenant? L'ennui, le dégoût. Au fond, il s'en était toujours fichu de cette banque. À présent qu'il avait atteint le sommet, il se remémorait pourquoi, 15 ans plus tôt, il avait cédé ses actions. Il n'avait été heureux qu'avec Anastasia. Sans elle, sa vie n'avait plus de saveur. Il voulait la retrouver. Il voulait la reconquérir. Où était-elle? À ce même instant, à quelques milliers de kilomètres de Genève, sur l'île de Corfou, en Grèce. Anastasia sortit de la mer émeraude et attrapa la serviette qu'elle avait laissée sur la plage. Elle était heureuse comme jamais et cela se voyait. Elle était sublime, magnifique et rayonnante, baignée de soleil et surtout de l'amour de Lev. Elle se sécha et se dirigea vers l'impressionnante maison qui se dressait derrière elle, protégée de rochers et surplombant la mer ionienne. À leur arrivée ici, au mois de décembre, cela avait été la passion folle. La passion des retrouvailles. La passion d'être ensemble tout le temps, de n'avoir plus à se cacher. Les promenades main dans la main dans la vieille ville de Corfou, les balades le long de la plage, et cette maison. Anastasia n'avait jamais rien vu de pareil. Lev voulait que tout soit parfait, et tout était parfait. Lev avait voulu qu'il soit beau. Ils avaient dévalisé les boutiques de luxe d'Athènes. « On s'habillera tous les soirs », lui avait-il dit. Elle avait trouvé l'idée merveilleuse. Leur chambre à coucher, de la taille d'un salon, donnait sur deux dressings qui débouchaient sur deux immenses salles de bain. Chacun enfermé dans la sienne, ils se séparaient pour mieux se retrouver, encore plus beaux, encore plus parfumés, encore plus apprêtés, encore plus sublimes. Dans un long rituel, ils se préparaient longuement. Les sens en éveil, ils sentaient monter l'excitation de leur retrouvaille à mesure que l'heure avançait. Lev commençait par des appuis faciaux, puis une longue douche, au sortir de laquelle il passait en revue chaque centimètre carré de son corps sculpté. Il arrangeait, coiffait, taillait, traquait la moindre imperfection, scrutant le moindre poil rebelle. Anastasia aimait le royaume de sa salle de bain. Elle se plongeait dans l'immense baignoire, à l'eau agréablement brûlante et remplie de mousse parfumée. Elle avait disposé des bougies tout autour d'elle et lisait longuement dans une atmosphère paisible. Puis le rituel de se coiffer, de faire onduler ses cheveux. Puis s'assurer de la perfection de ses ongles vernis aux mains et aux pieds. Puis choisir une robe. « Jamais la même », réclamait Lev. « Quand il n'y en a plus, il y en a encore. » Il faisait livrer sans cesse des cadeaux. Le matin, Lev était debout à l'aube. Il partait courir sur les collines de l'île et travaillait ensuite dans son petit bureau du rez-de-chaussée. Anastasia, une fois levée et apprêtée, le rejoignait, et ils prenaient le petit-déjeuner ensemble, dans la salle à manger au début de l'année et sur la terrasse depuis l'arrivée des beaux jours. Ils se régalaient de gâteaux au fromage, de pâtisseries grecques, de croissants encore chauds d'une boulangerie qui livrait la maison tous les matins. Après quelques pas sur la plage déserte, Anastasia remonta les escaliers taillés dans la roche qui menaient à la maison. Alors qu'elle arrivait sur la terrasse, Alfred lui apporta un café, de l'eau et des fruits coupés. « Merci Alfred », lui sourit-elle en prenant la tasse de café. « Vous avez lu dans mes pensées. À quelle heure rentre Lev ?»«
D'ici la fin de l'après-midi », répondit Alfred en regardant l'heure.
Depuis leur arrivée à Corfou, Lev devait se rendre régulièrement à Genève, à la demande de Macaire qui le croyait installé à Athènes. Lev avait expliqué à Anastasia qu'il ne pouvait pas s'enfuir comme un bandit. « Ça éveillerait les soupçons », avait-il dit. Anastasia n'avait pas compris de quels soupçons il parlait. Peu lui importait, les courtes absences de Lev étaient délicieusement insupportables. Encore plus de désir au retour, encore plus d'amour, encore plus de passion, qui eût cru que cela aurait été possible. Et puis c'était l'affaire de quelques mois au plus. Du moins était ce que Lev avait dit. Il avait d'abord été question de démissionner rapidement, puis il s'était rétracté, arguant qu'il ne pouvait pas abandonner ses clients du jour au lendemain. « Ce ne serait pas professionnel », avait-il expliqué. « À quoi bon être professionnel quand on démissionne de toute façon ?» avait-elle rétorqué. « Question de principe », avait-il dit. La voix d'Alfred arracha Anastasia à ses pensées.
« Que souhaitez-vous manger ce soir, madame ? Nous venons de recevoir du poisson frais du jour ainsi que des magnifiques langoustes. »«
Spaghetti à la langouste ?» suggéra Anastasia.
« Ça me paraît un excellent programme. »
Elle contempla la mer qui s'offrait à elle. Elle n'arrivait pas encore à croire vraiment que c'était là qu'ils vivaient désormais, Lev et elle, dans cette maison de rêve, avec sa crique privée et du personnel aux petits soins. Elle espérait bien n'avoir jamais à quitter cet endroit. À Genève, au dernier étage de la banque Besner, Christina entr'ouvrit la porte du bureau de Macaire.
« Lev est arrivé !»
annonça-t-elle d'un ton important. « Faites-le entrer !» répondit Macaire en se levant de son siège pour accueillir son visiteur. Lev apparut alors dans la pièce. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre.
« Salut mon vieux, ça fait plaisir de te voir. »«
Plaisir partagé, monsieur le président », lui répondit Lev en souriant. Macaire éclata de rire.
« Pas de ça entre nous, s'il te plaît. Et puis, je sais ce que je te dois. Je n'oublie pas que t'étais prêt à renoncer à la présidence pour me laisser la place. »
Macaire désigna de la main deux fauteuils et les deux hommes s'y installèrent.
« Puis-je t'offrir un petit verre? Un whisky ?»«
Va pour un whisky, » accepta Lev. Macaire tendit le bras et attrapa un imposant décanteur en cristal. Il versa un peu du contenu dans deux verres, puis les deux hommes trinquèrent d'un air complice.
« Tu voulais me voir ?» finit par demander Lev.
« Oui, » dit Macaire soudain très sérieux.
« Comment ça se passe à Athènes ?»
Lev, pour justifier son départ, avait expliqué à Macaire qu'il ne se voyait plus rester à Genève à présent qu'il était lui président, qu'il avait envie de changer d'air, besoin de se renouveler et de nouveaux projets. Ils étaient convenus, pour assurer une transition en douceur avec ses clients, que Lev n'annoncerait pas son départ immédiatement, qu'il pourrait travailler en partie à distance, reviendrait à la banque régulièrement et justifierait ses longues absences par des développements à l'étranger.
« Écoute, » dit Macaire à Lev, après que celui-ci lui eut fait un bref topo de la situation. « J'ai beaucoup réfléchi à ce dont tu m'as parlé. Ton envie de démissionner, le sentiment d'avoir fait le tour ici. Mais pour être honnête, j'ai encore besoin de toi à la banque. Question de stabilité. Tu as dans ton portefeuille quelques-uns de nos plus gros clients. J'ai peur qu'ils n'aillent voir ailleurs si tu t'en vas. La banque a déjà été passablement ébranlée par le meurtre de Jean-Bénédicte et l'annonce de ton départ serait préjudiciable pour l'établissement.
« Tu voudrais que je reste ?» s'étonna Lev.
« En toute franchise, je ne crois pas en avoir envie. Tu as été débauché par une autre banque, c'est ça ? Combien t'offre-t-il ?
Je te donnerai le double. J'ai besoin de toi. »
« Non, je n'ai pas prévu de rejoindre une autre banque. J'ai juste envie de changer d'air. Et puis, tu es président maintenant. Tu as ton bureau au 6e étage. Si je reviens, ce ne sera pas pareil pour moi d'être seul au 5e. »
« Lev, » proposa Macaire, « pourquoi ne reprendrais-tu pas le bureau de la banque à Athènes ?
Tu pourrais encore le développer. Tu as une importante clientèle grecque, cela se justifierait parfaitement. Tu pourrais continuer à gérer tous tes clients depuis là-bas. Il te sera facile de revenir à Genève ou d'aller n'importe où en Europe quand il le faut.
Les locaux de la banque à Athènes ne sont pas très enthousiasmants, objecta Lev.
Je ne veux pas passer mes journées là-bas.
Tu travailleras depuis chez toi, si tu veux. Tu n'auras à passer là-bas qu'une fois par semaine pour t'assurer que tout va bien.
Lev eut une hésitation. Macaire insista.
« Ne me laisse pas tomber, » implora-t-il. « Tu es l'un des piliers de cette banque. Je ne peux pas commencer ma présidence en perdant mon meilleur gestionnaire. De quoi aurais-je l'air ? Je t'en supplie. »
« Très bien, » finit par accepter Lev. « Mais je ne m'engage pas pour plus d'une année. »«
Une année, c'est déjà bien, » assura Macaire en lui adressant un regard plein de gratitude. « Et si la situation te plaît, tu pourras prolonger autant que tu veux. »
Lev accepta. Les deux hommes scellèrent leur accord par une poignée de main et trinquèrent à nouveau. Lorsque Lev s'en alla, Macaire eut un sourire suffisant où perçait un sentiment de supériorité. Il songea que la faiblesse de Lev, c'était sa gentillesse. La première partie du piège s'était refermée sur lui. Macaire ouvrit le premier tiroir de son bureau et en sortit la lettre qu'il avait reçue chez lui quelques jours plus tôt. Une lettre anonyme qui lui avait fait recracher son café lorsqu'il l'avait lu pour la première fois. Sur le papier, une seule phrase. Anastasia s'est enfuie avec Lev Levovitch.